Vous écoutez IDFM. Il est 11h.
Déjà la rue s'éveille, c'est le liquide bonjour. Le soleil aux merveilles sublime les faubourgs. Bonjour mon père, ma mère.
Bonjour mes chers enfants.
Bonjour monsieur le maire.
Bonjour madame Durand.
Good morning Mr. Kane.
Buongiorno signora.
Bonjour Bella Daniel.
Bonjour Calimera.
C'est le matin, ça chante sous le soleil tout neuf. Qui glisse sur la pente tout est frais comme un œuf. Et la moitié du monde dans la fraîcheur du jour se salue à la ronde. Calimera, bonjour. Pourquoi ces mots qui naguère avaient un sens très précis d'accueillir de joie sincère ces mots qui disaient merci ne sont-ils plus que formules? Nos bonjours, sept protecteurs, distraits, pincés, ridicules, sont toujours pauvres de cœur.
Bonsoir, le jour décline, le vieux soleil s'en va. Bonsoir.
Good evening.
Bonsoir.
Buonasera.
La journée est finie.
Les ateliers fermés.
Oh, que c'est bon la vie dans le soir embaumé. Bonsoir, cher baronne.
Bonsoir, mon général.
Oui, bonsoir, c'est la bonne.
Bonsoir, Marie Chantal.
Tandis qu'outre Starine, Frau Professeur König, dans sa langue divine lance un
Good napic. Mais le peuple hellénique, assis sur l'agora, salut le ciel attique, bonsoir Calispera. Pourquoi ces mots qui naguère avaient un sens très précis d'accueillir de joie sincère ces mots qui disaient merci ne sont-ils plus que formules? Nos bonsoirs, secs protecteurs, distraits, pincés, ridicules, sont toujours pauvres de cœur. Déjà la rue se vide sous les lampions éteints et dans l'ombre languide minuit sonne au lointain.
À l'hôtel de la lune, des couples ont flammé, s'en vont chercher fortune. Bonne nuit, bien-aimée.
Bonne nuit, Tourterelle.
Good night, Romeo.
Dorothée, Isabelle.
Il a beau, mais Julot.
Bonne nuit, juge intègre, votre bourreau demain pendra le pauvre nègre. Bonne nuit, dormez bien.
Petits enfants, belle señorita. Buenas noches.
Good night.
En grec,
kalinikta. Si ces mots étaient sincères, tout changerait à l'instant. Bonjour les gens de la terre, bonsoir, bonne année, bon vent. Ça ferait une telle somme d'amitié, je vous le dis, que ce vieux berceau des hommes pourrait, comme avant la pomme, devenir un paradis.
Bonjour à toutes et à tous, voici aujourd'hui un bonjour voisin spécial, nos voisins les animaux, présenté par Pascal
et Brigitte de l'association de protection animale L214.
Le thème aujourd'hui de l'émission sera la végétalisation de notre alimentation ou comment, par un geste simple, commencer à changer nos habitudes alimentaires et découvrir la gastronomie végé.
Nous recevrons au cours de cette émission Jacques Bouteau, mairie du 2e arrondissement de Paris, et Aurélia Greff, porte-parole de l'Association végétarienne de France, co-initiatrice avec L214 de Jeudi Veggie.
Mais tout d'abord, voici une histoire ordinaire et extraordinaire d'animaux.
Cette histoire se passe en Inde, dans le village d'Antoli, situé dans le Gujarat, où l'attitude incroyable de deux animaux a attiré l'attention de tout un chacun, y compris celle des spécialistes des animaux sauvages. Les villageois d'Antoli ont informé le responsable bénévole de la sauvegarde de la faune et de la flore, M. Vias, de fréquentes visites effectuées par un léopard dans un champ de canne à sucre pour y retrouver une vache. M. Vias ainsi que son équipe se sont donc rendus à plusieurs reprises dans le village et ont pu constater les faits. Depuis plusieurs mois, un léopard venait rendre visite à une vache à intervalles réguliers. C'était incroyable, raconte M. Vias. Les deux animaux s'approchaient très près l'un de l'autre et l'intrépide vache léchait la tête et le cou du léopard. Les chiens se mettaient à aboyer dès que le léopard venait voir la vache qui l'attendait tous les soirs, étonnamment, entre 21h30 et 22h30. L'Office des forêts, qui a essayé de capturer le léopard, y a finalement renoncé lorsqu'il a appris l'amitié qui existait entre les deux animaux. Par ailleurs, le léopard n'a jamais blessé aucun autre animal dans le village. Ces visites ont été bénéfiques pour les villageois, car les autres animaux ont cessé d'endommager les récoltes dans les champs et le rendement a augmenté de 30%. Voilà encore un beau témoignage d'amitié entre animaux que l'on penserait improbable. Cette histoire nous rappelle que les animaux sont bien des êtres sensibles et que nombre d'émotions, incluant notamment la joie et l'empathie, peuvent être partagées par des amis inattendus, y compris un prédateur et sa proie.
Voilà une histoire bien extraordinaire, qui l'eût cru ? Et donc, nous allons en revenir au thème de notre émission sur le jeudi veggie. Quel rapport avec les animaux ? Diminuer sa consommation de produits d'origine animale permet de réduire le nombre d'animaux abattus ou pêchés. En outre, si les animaux sont entassés dans les élevages, c'est à cause de la très forte demande.
Sur viande.info, on peut lire que la France compte parmi les pays au monde où l'on consomme le plus de produits d'origine animale. C'est étonnant.
La France figure en effet parmi les plus gros consommateurs de produits d'origine animale. Par rapport à l'apport en calories, la part apportée en France par les produits d'origine animale est de 34%, alors qu'aux USA, elle est de 27%. Si on regarde maintenant par rapport à l'apport en protéines, on est en France à 63%, tandis que les USA sont à 65%, donc des protéines apportées par les produits d'origine animale. Si aux USA, on mange plus de viande, la France se rattrape sur les produits laitiers et les poissons et les fruits de mer, et qui ne sont pas des fruits. Et oui.
Cette consommation a un impact négatif lourd sur la santé. Trop manger de viande, est un problème pour la santé ?
Eh bien oui, on se trouve aujourd'hui dans les pays dits développés, dans les pays riches, avec une prévalence de certaines maladies, notamment les maladies cardiovasculaires et les cancers. Ce qui fait que, au niveau de la santé, le niveau actuel de consommation pose un problème de santé publique. On a de plus en plus de maladies qui sont liées à cette forte consommation de produits d'origine animale.
Oui, mais si l'on mange trop de viande.
Si on mange trop de viande, eh bien voilà, on s'expose à toutes ces maladies.
Et si on n'en mange pas du tout ?
Et si on n'en mange pas du tout, pas de problème. En fait, on a un problème quand on mange trop de viande, mais ne pas en manger du tout, du moment qu'on garde une alimentation équilibrée et variée, il n'y a aucun problème. C'est reconnu par l'Association des diététiciens américains et canadiens, les régimes végétariens, y compris les régimes végétaliens, c'est-à-dire qui excluent tous les produits d'origine animale, ne sont pas mauvais pour la santé. Bien au contraire, ils peuvent même favoriser l'élimination de certaines maladies.
Et d'autre part, j'ai entendu parler d'antibiorésistance. Qu'en est-il ?
Alors, le phénomène d'antibiorésistance, il prend de plus en plus le devant de l'actualité, effectivement. On a actuellement un très grand nombre d'animaux, dus à cette consommation vraiment importante de viande, qui sont confinés dans des élevages fermés, sans accès à l'extérieur, avec une variabilité génétique pauvre, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui ont été sélectionnés, par exemple, pour produire plus de viande, mais tous se ressemblent finalement, puisque aujourd'hui on a un recours vraiment très important à l'insémination artificielle. Et ces conditions d'élevage, couplées à cette variation, à cette variabilité génétique faible, permettent aux maladies de se développer. Donc on les traite avec des antibiotiques, sauf que voilà, cet apport en antibiotiques aujourd'hui, pour les humains on dit les antibiotiques sont pas automatiques, pour les animaux malheureusement il en va tout autrement. Les antibiotiques sont donnés de façon régulière aux animaux, et donc les bactéries qui sont au contact des animaux apprennent à se défendre par rapport à ces antibiotiques et développent ce qu'on appelle de l'antibiorésistance, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus sensibles aux molécules antibiotiques. Or, aujourd'hui, on a notamment le problème avec deux antibiotiques qu'on appelle les fluoroquinolones et les céphalosporines, qui sont encore donnés aux animaux, alors que c'est bien souvent les derniers remparts contre certaines maladies, justement, qui sont, pas courantes, mais qui arrivent chez l'homme.
Et cette consommation de viande a également un impact sur l'environnement ? Car la viande est souvent citée comme responsable des émissions à gaz à effet de serre.
Oui, alors l'élevage, il est responsable d'une partie des émissions de gaz à effet de serre. La FAO, en 2006, l'avait chiffré à 18% des gaz à effet de serre, ce qui les plaçait à concurrence des transports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les politiques publiques qui nous disent « Ah ben, pour limiter la pollution en ville, pour limiter les gaz à effet de serre, préférez votre vélo » à votre voiture. Préférez les transports en commun. Ben, un geste simple qui pourrait être aussi demandé par la ville, ce serait justement de végétaliser l'alimentation, c'est-à-dire de consommer moins de viande, moins de produits laitiers, de façon à diminuer significativement ses émissions de gaz à effet de serre. On pourrait aussi parler du problème du partage des ressources, parce qu'en effet, pour produire cette quantité de viande, on est sur un espace qui est fini. C'est-à-dire que bah, la Terre, elle n'est pas infinie, et puis on ne va pas aller cultiver sur la Lune ou sur Mars, il n'y a pas les ressources nécessaires pour le faire non plus. Donc on a une planète qui est limitée en ressources, et aujourd'hui, les deux tiers des surfaces agricoles de cette planète sont destinées à nourrir les animaux d'élevage. En France, aujourd'hui, on importe une grande quantité de produits d'origine animale, de soja, par exemple, qui viennent du Brésil. C'est une des causes de la déforestation de l'Amazonie. Et alors, paradoxalement, on a un milliard de personnes qui souffrent de maladies dues au fait qu'elles mangent trop. Et de l'autre côté, on a un milliard de personnes qui meurent, ou qui souffrent en tout cas, de faim chronique dans les pays du Sud, comme on le dit. Donc, voilà. Le jeudi veggie, ce serait vraiment un progrès pour toutes ces raisons. Par rapport à la santé, santé personnelle pour nous, santé publique, ce serait un progrès pour les animaux, moins entassés. Ce serait un progrès au niveau du partage des ressources, un partage plus équitable, au lieu d'aller chercher nos ressources dans les pays étrangers. On pourrait être autosuffisant, notamment sur l'Europe, qui est quand même une terre vraiment riche. Et puis, ce serait aussi un geste efficace pour l'environnement, donc du point de vue des gaz à effet de serre, mais on peut aussi parler du gaspillage, de la pollution des eaux, par exemple. Et puis, on n'en a pas parlé encore, mais par rapport à la pêche, aujourd'hui, la façon de pêcher dans tous nos pays fait que on en est à de la surpêche. Alors la surpêche, on n'aime pas trop ce terme, ça voudrait dire qu'on pêche trop, mais de toute façon, à partir du premier poisson qu'on pêche, on pêche trop quelque part. Mais aujourd'hui, les techniques de pêche font que les poissons ne se reproduisent pas aussi vite que ce qu'on les pêche. C'est-à-dire qu'on est en train de vider complètement les océans de ses habitants en faisant des dégâts considérables sur les fonds marins, mais aussi les techniques de pêche sont vraiment des techniques assez atroces pour tuer les animaux. On a évalué qu'un poisson pouvait agoniser jusque 4 heures. Pour comparaison, un bovin qui est tué sans étourdissement peut agoniser jusqu'à 14 minutes. Donc on voit que les poissons sont aussi les victimes de notre appétit de produits d'origine animale. On va faire une première pause musicale avec Moby, artiste végétalien, vegan, donc qui ne consomme pas de produits d'origine animale. Pour lui, jeudi végie, c'est tous les jours. Et son morceau,
c'est au nez. My honey come back. Sometime I'm on a rap back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime my honey come back. Sometime I'm on a rap back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime my honey come back. Sometime I'm on a rap back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime I'm going over here.
honey come back. Let my honey come back. Let my honey come back. Let my honey come back.
Bonjour Monsieur Bouteau.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Je vous en prie.
Vous êtes maire du 2e arrondissement de Paris. Vous êtes surtout un maire engagé. Cette semaine, votre mairie accueille l'exposition photographique de Yannick Magne et Minami Shimura, intitulée « Dans la zone interdite de Fukushima ». Dans quelques semaines, du 23 avril au 3 mai, votre mairie accueillera le lancement officiel de Jeudi Veggie. Ce n'est pas un coup d'essai sur cette question cruciale, quelle alimentation ? Dans votre arrondissement, par exemple, la cantine propose un menu végétarien le mardi depuis 2009. Pourquoi ce choix ? Pourquoi cet engagement ?
Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais vous dire deux choses, si vous me permettez. Je ne suis pas seulement un maire engagé, parce qu'on peut être engagé de diverses manières. Je suis d'abord un maire écologiste. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mm-hmm. Je suis donc un élu Europe Écologie Les Verts parce que l'écologie me paraît être la seule façon de poser les jalons qui permettront à la société de se sauver d'elle-même, c'est-à-dire à faire en sorte que les générations futures puissent construire un autre monde. Ce sera long, compliqué, mais seule l'écologie nous permettra d'y arriver. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en plus de tout ce que vous dites, on fait un grand, une grande fête anti-gaspillage alimentaire les 5 et 6 avril, notamment avec des gens que vous connaissez certainement, Disco Soup, où nous allons donc inviter les habitants du 2e arrondissement et d'ailleurs à venir avec leurs légumes un peu biscornus que nous allons éplucher et faire une soupe géante qui sera dégustée en commun dans l'après-midi. Voilà, ce sera donc la fête commence le vendredi et la soupe ce sera le samedi 6 avril, c'est rue Montorgueil dans le 2e arrondissement. Si vous voulez faire un tour, ce sera chacun le bienvenu. Voilà.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Alors, quelle était votre question, pardon ? Donc, pourquoi des menus végétariens depuis janvier 2009 ?
Voilà, par rapport à la cantine qui propose un menu végétarien. Voilà.
Alors, effectivement, depuis le 1er janvier 2009, dans le 2e arrondissement, tous les mardis à la cantine CVG. Pourquoi ? Bah, parce que chacun sait que manger trop de viande pose des problèmes environnementaux.
Oui.
On sait que l'industrie de la viande en particulier contribue au réchauffement climatique via la production des gaz à effet de serre dans l'exploitation, que ça consomme beaucoup d'eau, qu'une protéine protéine végétale a besoin de 6 protéines animales pour être produite, donc oui. C'est un grand gaspillage.
Oui.
Également pour des questions de santé, on sait que l'on consomme trop de viande et que cela est à l'origine des maladies cardiovasculaires notamment, et puis aussi pour des considérations liées à la condition animale.
D'accord.
Qui est trop souvent oublié. Et puis enfin, une quatrième raison qui nous a poussé à le faire, c'est que le moment du repas est aussi, pourquoi pas, un moment éducatif, et il est important de montrer qu'il est d'autres façons de se nourrir que de la façon traditionnelle dont on le faisait jusqu'à présent, c'est-à-dire un plat avec viande et garniture, comme on appelle souvent les légumes.
D'accord. Et justement, quel est l'accueil en fait de la part des jeunes, et constatez-vous des prises de conscience au travers de ce menu végétarien du mardi ?
Alors, au moins, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est complètement banalisé. Les élèves, ou même les adultes, savent que le mardi, ils vont avoir un repas savoureux, avec les grammages qui conviennent, le nombre de protéines qu'il faut, les vitamines, etc. Mais que ce sera un repas qui ne comportera pas de chair animale. Aujourd'hui, c'est une habitude qui est prise, c'est banalisé, et plus personne ne fait remarquer que le repas est plus ou moins bon que celui du lundi.
D'accord.
Ou que celui du mercredi.
C'est apprécié en fait.
Pardon ?
Ce repas est apprécié.
Oui, oui, tout à fait. Je dirais même plus qu'il est apprécié plus ou moins. C'est-à-dire, quand le cuisinier est bon, il est très apprécié. Quand il est un peu moins bon, ça peut arriver. La cuisine, c'est pas une science exacte. Il est un peu moins apprécié. Alors, on a fait quelques petites erreurs qu'on a corrigées, comme celle de servir du chili sin carne, c'est-à-dire sans viande. Ça s'est pas passé parce qu'on n'avait pas compris. Nous l'avions compris au niveau des décideurs, mais la cuisine n'avait pas forcément répercuté que un repas sans viande, c'était pas un repas traditionnel duquel on supprime la viande. Non, c'est une conception du repas qui est différente pour que le repas soit conçu pour être un moment agréable et savoureux.
Mmh, d'accord. Et donc aujourd'hui, demander un repas végétarien à des chefs est encore difficile, leur formation étant centrée sur la viande ou les poissons. Donc l'élaboration des menus a-t-elle posé des difficultés ?
Est-ce qu'elle en pose encore aujourd'hui, ou est-ce que ça c'est complètement résolu ?
Non, aujourd'hui c'est complètement résolu. C'est vrai qu'il nous a fallu batailler auprès des diététiciennes, auprès des cuisiniers pour leur expliquer qu'il était possible de faire autrement. Moi j'ai trouvé plus de blocage du côté des diététiciennes que du côté des cuisiniers, mais c'est vrai qu'on entend dire que dans certaines caisses des écoles ou restaurants scolaires plutôt, puisque les caisses des écoles gèrent les restaurants scolaires, en tout cas à Paris c'est comme ça, que les cuisiniers ne comprenaient pas et ne savaient pas cuisiner sans viande, sans doute en particulier à cause de leur formation. Mais il suffit de leur expliquer, de leur faire comprendre, de les former, et cela passe ensuite très bien. Quant aux diététiciennes, après leur avoir demandé de me prouver qu'une protéine animale était différente d'une protéine végétale, celle-ci n'ayant pu me faire la démonstration du contraire, c'est-à-dire qu'une protéine végétale était équivalente à une protéine animale en termes d'apport nutritionnel, elles ont été convaincues que on pouvait tenter les repas végétariens, et aujourd'hui plus personne ne le conteste.
C'est vraiment une très belle expérience. Est-ce que vous avez des retours, par exemple, sur des familles qui du coup auraient aussi opté pour un repas végétarien familial par semaine en...
Non, pas directement, mais je peux vous dire deux choses. C'est que pourquoi est-ce que ça s'est fait facilement dans le deuxième arrondissement ? Je pense que c'est parce que depuis 2001, depuis que j'ai été élu, nous travaillons sur sur la qualité de la restauration scolaire et en particulier en introduisant des produits issus de l'agriculture biologique dans les menus qui sont servis aux enfants. Et cette qualité alimentaire supplémentaire pour laquelle nous avons fait plusieurs conférences, nous avons invité les parents d'élèves à en débattre, etc., parce que cela ne se fait pas tout seul. Il faut par exemple qu'on réduise le nombre de composantes d'un repas parce que c'est un tout petit peu plus cher. Donc par exemple, on supprime parfois un fromage, parfois une entrée, donc on supprime de la quantité pour faire de la qualité, mais fallait le mettre en débat avec les parents. J'ajoute que si on supprime de la quantité, on ne diminue pas les grammages, donc tous les ingrédients sont prêts et sont présents dans le repas. Donc toute cette prise de parole avec les parents lors de réunions a amené à des prises de conscience qui d'ailleurs ont amené logiquement à manger moins de viande. Mmh. Autrement dit, quand on mange bio, on introduit de la confiance et quand on introduit de la confiance, on peut plus facilement faire comprendre que la viande n'est pas indispensable à tous les repas. Donc c'est le fait d'en avoir parlé qui a fait en sorte que les parents se sont plus ouverts à cette question et ont compris notre démarche. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si les parents font plus de repas végétariens chez eux. Mais je peux vous dire qu'en termes de bio, les enfants ont été très prescripteurs et qu'on a augmenté considérablement le nombre de parents qui sensibilisés à l'achat de produits alimentaires, exempts de produits chimiques, que ce soit dans le champ ou dans la transformation. Donc je pense que les enfants sont aussi prescripteurs en ce qui concerne les repas végétariens. Et la deuxième chose que je voulais vous dire plus rapidement, parce que je pense que je suis un petit peu long, c'est que le jour où il y a le plus d'enfants inscrits à la cantine dans le deuxième arrondissement, c'est le mardi. Mmh. C'est-à-dire que il y a des parents qui choisissent spécifiquement d'inscrire leur enfant ce jour-là parce qu'il n'y a pas de viande.
C'est une bonne nouvelle.
Est-ce que les autres jours, dans votre cantine, ce serait possible pour un enfant de manger quand même végétarien ?
Ben, on y pense, mais...
C'est compliqué, hein ?
C'est compliqué parce que, malheureusement, aujourd'hui, le décret Bruno Le Maire l'interdit. Vous savez, ce décret qui a été écrit sur mesure pour l'industrie de la viande et du laitage, hein, qui oblige à servir tous les jours au moins un produit issu de la production animale, que ce soit viande ou lait ou œuf. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de repas végétalien, cela est interdit, ce qui est regrettable, et qui nous empêche de faire plus de 2 repas végétariens par semaine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire 3 repas végétariens de suite. Mmh. Alors, y compris en choix. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Alors, je sais que certaines communes le font, mais...
Oui, c'est le cas à Strasbourg, je crois.
Ouais, pas seulement, je crois que c'est pleine commune ou... bref, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je sais que ça se fait. Et puis, de toute façon, je ne vais pas dénoncer mes petits camarades qui font du bon travail. Mais nous, on ne le fait pas, pour plusieurs raisons. Pour cela, parce que moi j'essaye d'inscrire, et d'ailleurs j'inscris ma démarche strictement dans le cadre des règles et décrets, et j'essaye de faire bouger les règles et décrets, mais je ne pratique pas dans ma fonction de maire la désobéissance civique.
Bien sûr.
Voilà. Mais ce que je vais vous dire, c'est on a, nous, dans le deuxième arrondissement, aujourd'hui, 80% de plats issus de l'agriculture biologique. C'est-à-dire que les enfants mangent quasiment totalement bio, pain compris. Hein. Mm-hmm. On n'a pas tout, et encore, ce qu'on n'a pas, c'est souvent de l'AOC. Hein. Mm-hmm. Et comment on y est arrivé ? Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai évoqué en disant que une composante d'un repas qui aujourd'hui est traditionnellement composée entrée, plat, dessert, fromage, dessert, de temps en temps, quand le fromage c'est un yaourt, on supprime le dessert, et quand de temps en temps on supprime le fromage, manger un fromage fromage en plus à midi, c'est pas toujours indispensable, même si on aime bien les fromages, et il faut faire connaître la diversité des terroirs et des fromages qui sont qui existent, mais on peut supprimer de temps en temps le fromage ou de temps en temps une entrée pour réduire le menu à 4 composantes, en diminuant donc, je le disais, la quantité au profit de la qualité. C'est une façon pour nous qui nous a permis de progresser. Une des deuxièmes façons qui nous ont permis de progresser est, et là je réponds à votre question sur y a-t-il une alternative végétarienne possible, nous avons supprimé ce qu'on appelait le choix dirigé. C'est-à-dire que souvent dans les cantines scolaires, vous avez le choix. Mais en vérité, les élèves n'ont pas vraiment le choix. C'est un faux choix, je vous explique pourquoi. C'est parce que le choix qui est proposé aux élèves est toujours un choix dirigé. C'est-à-dire que les élèves ont le choix le lundi entre brocoli et chou-fleur et le jeudi entre frites et purée. Pourquoi ? Parce que si on fait choisir entre brocoli et frites, eh bien ceux qui vont prendre, qui vont passer devant vont prendre toutes les frites, les autres vont avoir les brocolis. Et ouais. Même chose, si on fait choisir entre chou-fleur et purée, hop, la purée va partir tout de suite et les autres vont avoir le chou-fleur. Et le chou-fleur va passer à la poubelle où ça va créer des frustrations. Donc aujourd'hui, c'est faux de dire que dans les cantines scolaires, il y a un choix. C'est un choix dirigé, on a toujours le choix entre brocoli et chou-fleur ou le lendemain entre frites et purées. Donc on s'est dit, bah, c'est pas vraiment un choix, ça bluffe un peu les gens, les élèves. Donc, et surtout, ça coûte des sous parce que vous produisez en moins grande qualité, quantité, vous faites travailler deux fois deux recettes, etc. Mm-hmm. Donc en supprimant le choix dirigé, on a gagné en coûts, on a fait baisser les coûts et on a réinjecté ces gains, dans la qualité et donc on a pu encore progresser en matière d'agriculture biologique. Voilà pourquoi on n'a pas aujourd'hui de choix entre un repas carné tous les jours et un repas végétarien. Mmh. Alors en même temps, c'est quelque chose qui peut évoluer. Je pense que quand le décret le maire aura été modifié, et j'ai écrit au ministre d'ailleurs à ce sujet, d'ailleurs en lien avec l'association L214, pour que le décret soit modifié. Apparemment, sans succès jusqu'à présent. Mais tant qu'il n'est pas modifié, on ne change pas. Quand il sera modifié, on pourra regarder ce qui sera possible de faire. Après, si ça peut se faire à coût égal, etc., etc., on le fera. Mais moi, je comprends que ça se fasse, qu'il y ait un choix, une alternative végétarienne tous les jours, parce que ça respecte à la fois ceux qui veulent manger végétarien et puis ceux qui veulent pas manger de la viande pour des questions liées à leur liberté de conscience, comme on dit. Même si on est laïque, on est aussi œcuménique. Et laïque, ça ne veut pas dire contre les religions, ça veut dire les considérer toutes à égalité. Un repas sans viande, si ça permet de mettre tous à égalité, ceux qui sont athées, ceux qui sont croyants et qui ne veulent pas manger de viande pour une raison religieuse, eh bien, si cela permet de les réunir autour d'une même table, je crois qu'on fait plutôt œuvre de cohésion sociale et ça va dans le bon sens, j'en suis convaincu.
Oui, plutôt. Est-ce que globalement, au sein d'Europe Écologie Les Verts, il y a également cette volonté de réduire significativement la consommation de produits d'origine animale ?
Oui, ça l'est. Notamment, nous avons voté beaucoup de motions contre la production industrielle de viande. Qui est une aberration dénoncée aujourd'hui très largement par différents auteurs que vous connaissez. Hein. Je fais allusion au livre de Caron, au livre de Nicolino, c'est-à-dire nos steaks et bidoches, où tout ce qui est décrit dans ces ouvrages correspond à une réalité que, en tant que parti politique, nous avons eu l'occasion d'observer et la production de viande est respectueuse au premier chef, ni pour les gens qui travaillent dans les abattoirs, qui sont soumis à des conditions de travail ignobles, de fait même d'avoir à tuer de sang-froid des animaux de façon souvent cruelle par nécessité productiviste, avec toute la souffrance animale que cela engendre, et puis toutes les conditions ensuite de production de cette viande qui sont pas non plus respectueuses des consommateurs et de leur droit à la qualité. Donc oui, il y a vraiment beaucoup de délibérations au sein d'Europe Écologie Les Verts qui sont prises pour réformer les abattoirs et également les conditions dans lesquelles les volailles et les porcs, pas seulement les abattoirs pour la viande, mais aussi la façon dont les volailles et les porcs sont, gérés, si je puis dire, dans leur vie quotidienne, ce qui est avec des délimitations d'espace, etc. Et c'est pas les 12 centimètres supplémentaires qu'a voulu l'Union européenne pour la volaille qui vont vraiment changer beaucoup de choses. Cela ne va pas du tout assez loin. Nous, on est contre la production, donc je résume, de la production industrielle de viande, mais c'est vrai que aujourd'hui le parti écologiste n'a pas pris position contre la viande. Il considère que la production de viande artisanale ou plutôt dans des fermes à taille humaine fait partie de la tradition de nos campagnes. Bon, moi je pense que ça peut aussi évoluer à ce niveau-là, mais lorsque les gens cesseront de manger de la viande tous les jours, et à tous les repas souvent, eh bien je pense que la viande pourra n'être produite que dans des conditions acceptables pour le bien-être des campagnes, des paysans eux-mêmes, mais aussi des consommateurs, et on aura déjà largement progressé.
Oui, ce sera une belle progression. Je sais qu'au sein de LV, vous vous battez aussi pour justement cette prise en compte de la condition animale. L'été dernier, vous aviez organisé une carte blanche justement sur ce thème. Est-ce que vous voyez du coup une évolution par rapport à ces questions au sein du parti ?
Ben, c'est vrai que on est passé par une période où le parti avait négligé cette question de la condition animale. Le fait d'avoir organisé dans le cadre des journées d'été cet atelier carte blanche qui a été très fréquenté, malgré d'ailleurs qu'il se passait le samedi matin du dernier jour des journées d'été, prouve qu'il y a une vraie attente sur cette question. Cet atelier a conduit ensuite à la rédaction d'une motion au Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts sur la condition animale qui a été adoptée à la quasi-unanimité, y compris car il nous a fallu la négocier avec l'ensemble des commissions d'Europe Écologie Les Verts, donc y compris avec l'assentiment de la commission enseignement supérieur et recherche qui était très réticente à supprimer l'expérimentation animale à des fins médicales, à la commission ou une sous-commission, en tout cas à une partie des écologistes, il en existe qui considèrent que la chasse raisonnée, c'est plutôt une bonne chose pour éviter la prolifération de prédateurs, etc., etc. Y compris avec les paysans eux-mêmes et les représentants de la commission agriculture et de la commission pêche. Donc, d'ailleurs, la commission pêche, c'est ce qui a sans doute posé le moins de problèmes parce qu'il y a une très grande sensibilité en notre sein aux conditions dans lesquelles sont aujourd'hui gérées les ressources halieutiques, et avec la surpêche, les fonds raclés, les filets dérivants, etc. Il y a vraiment là une bataille très très importante à mener, et aussi à changer les mentalités. Un poisson peut être un animal très sensible, contrairement à ce qu'on croit, et les poissons sont vraiment considérés comme des choses, et c'est très très difficile à supporter quand on le sait. Donc, avec l'ensemble de ces commissions qui ont des sensibilités variées, nous avons réussi à obtenir un consensus quasi général pour avoir un texte qui aujourd'hui est ce que pense le parti politique écologiste sur la condition animale, et c'est un texte exigeant qui, s'il était mis en œuvre, constituerait déjà une progression colossale des mentalités et des pratiques aujourd'hui en France. Ce texte, j'en termine là pour répondre à votre question, précisait qu'il demandait aux parlementaires écologistes, députés et sénateurs, d'être à l'initiative d'une proposition de loi sur les droits et les conditions et la condition de vie des animaux. Quand on parle de droits des animaux, c'était pas évident. On a obtenu que cela soit voté. Maintenant, il y a un travail qui est fait avec plusieurs députés, je pense notamment à Isabelle Attard, députée de Basse-Normandie, qui se préoccupe de cette question et qui travaille à l'élaboration d'un projet de loi, une proposition de loi, pardon, mais après il faut trouver la niche parlementaire, il faut se battre pour qu'elle puisse passer, mais il y a une prise en main réelle et sérieuse de ces questions aujourd'hui dans le Parti écologiste français.
Oui, bien, c'est vraiment chouette, toutes ces informations, en tout cas. Et nous vous remercions beaucoup d'avoir répondu donc à nos questions.
Mais je vous en prie, à très bientôt.
Merci, à très bientôt, merci.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Donc, nous invitons nos auditeurs à découvrir l'ensemble des initiatives de M. Bouteau sur le site internet de M. Bouteau et celui de la mairie, donc www.jacques-bouteau.fr. Et mairie02.paris.fr.
On va maintenant faire une pause musicale avec Serge André Jones, un Canadien qui nous interprète Manger Végé.
Manger Végé! Et que c'est le fun! C'est Roger, c'est moi le végé, je le suis en toute liberté. C'est un choix éclairé que j'ai fait il y a plusieurs années, quand que ma vie, je voulais la nettoyer. Moi, c'est Armande, puis je veux savoir, quand que t'es végétarien, tu manges-tu rien? T'es peut-être pilé avec des petits pois?
Ben non!
Connaissez-vous le céleri ravoux, la goyave, le boulgour ou topinambour, les épinards ou le réfort, le pâtisson ou le cresson, les agnori ou ijiki, les artichauts ou le sorgho, le sarrasin ou le rio jasmin, la chicorée ou les lentilles germées? Moi, c'est Ginette! Des légumes cuits. Ça reste des légumes cuits. On ne peut pas manger que des légumes cuits.
Ben non.
Connaissez-vous la tarte philo au risotto ou le couscous aux cinq joyaux, les choux de Bruxelles aux épices ou la petite sauce citron mélisse, les pois chiches dans un curry servi avec des chapatis, les cubes de tofu au sésame, pour dessert une mousse aux bananes. Au lait de coco coco, suivi des pâtés impériaux. Un petit dalle, ça fait pas de mal. Des aubergines et des dauphines. Les haricots aux champignons, quand je mange ça, je peux pas être grognon. Un velouté d'asperges. Ah, ça, j'aime ça parce que ça rime avec Serge. Puis ça, c'est moi. Arnold. En tout cas, on peut pas dire que les végétariens manquent d'énergie. Roger, ouais, c'est moi le végé, mais j'aime pas me faire étiqueter. Ouais, l'autre année, je n'ai mangé, mais je l'ai fait sans me culpabiliser. Mais après ça, dans le silence, maudit que j'avais des flatulences. T'arrives. Manger végé, je vais vous le dire, c'est un beau cadeau à s'offrir. Ça fait pas pleurer, ça fait rire. Et les enfants peuvent bien grandir. Mais maintenant, pour vous, je tire la morale de ma belle satire. Le tofu peut se frire. Le tofu peut se frire. C'est l'heure du lunch!
Nous recevons maintenant Aurélia Greff, qui est porte-parole de l'Association végétarienne de France. L'Association végétarienne de France est co-organisatrice avec L214 de cette initiative Jeudi Végie qui sera bientôt lancée. Bonjour Aurélia.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le Jeudi Végie? Quelles sont les différentes initiatives qui vont avoir lieu là tout au long de ce mois d'avril?
Alors tout d'abord, Jeudi Végie, bah, c'est pour promouvoir l'alimentation végétarienne un jour par semaine. Et donc c'est vrai que sur avril et notamment sur Paris, il y a pas mal d'activités qui sont prévues. Et la première, ce sera le jeudi 4 avril à l'occasion de la semaine du développement durable. C'est en partenariat avec la mairie de Paris et la SPP. Donc c'est l'organisme qui gère les services de restauration pour les 46 000 agents de la mairie de Paris. Donc voilà, on va proposer ce jour-là deux plats végétariens dans tous les restaurants collectifs des agents de la mairie de Paris, avec des flyers, des affiches et des animations. Dans certains restaurants, des équipes de Jeudi Végie seront présents pour animer cette journée. Donc c'est une première façon de faire connaître Jeudi Végie et d'inciter à manger végétarien. Mmh. Il y aura également une exposition Jeudi Végie, donc sur tous les bienfaits de l'alimentation végétarienne, qui aura lieu le samedi 6 avril dans le cadre de du concours de cuisine végétale Saveur Durable. Donc ça, ce sera au Purgatoire, au 54 rue du Paradis, dans le 10e à Paris. Mmh. Et puis les gros événements à venir, c'est donc une exposition Jeudi Végie dans la mairie du 2e arrondissement de Paris à partir du 23 avril pendant 2 semaines. Et puis la projection du film documentaire Love Me Tender qui aura lieu le 23 avril également dans la salle Gendarme, donc toujours dans le 2e arrondissement de Paris, qui sera suivi d'une soirée débat. Donc c'est une projection qui est ouverte à tous, gratuite, donc n'hésitez pas à venir très nombreux. Et il y aura une soirée également le jeudi 25 avril avec un grand buffet végétarien offert. Donc là, ce sera sur inscription, en présence de personnalités. Et ce sera possible de s'engager pour le jeudi végie. Donc s'engager à dire, eh ben, moi aussi, je participe et je mange végétarien un jour par semaine.
Waouh, ça fait un beau programme. On va retrouver toutes ces informations prochainement sur jeudi-végie.fr. L'expo, elle est quand même assez importante, hein. Il me semble qu'on a une douzaine de panneaux prévus sur tous ces thèmes, et notamment un panneau sur les personnalités, un panneau sur la gastronomie végétalienne. Tout ça est vraiment varié.
C'est une vraie exposition avec pas mal d'informations qui reprennent tous les bienfaits, alors aussi bien des informations sur les aspects environnementaux, sur la santé, mais effectivement, comme vous le soulignez, sur le plaisir culinaire, sur toutes les célébrités, parce qu'il y a autant de sportifs, d'acteurs, plein de monde très connu qui sont végétariens, donc c'est l'occasion de les mettre à l'honneur également.
Et en projet aussi, cette lettre d'info qui sera envoyée une fois par semaine?
Alors voilà, quand les gens vont s'engager, donc on pourra s'engager sur le site jeudi-veggie.fr à participer à cette journée, à dire moi aussi, je veux agir, je m'engage et je participe au Jeudi Veggie. Et donc toutes les semaines, on recevra une lettre d'information avec des petits conseils pratiques et puis des idées recettes pour bien mettre en œuvre cette journée et se régaler. Donc ça sera lancé à partir de la semaine du 25 avril.
Super, eh ben merci beaucoup Aurélia pour cette présentation rapide de Jeudi Veggie. Donc on peut retrouver sur le site internet jeudi-veggie.fr. Et puis si on est à la recherche de conseils nutritionnels, de recettes de cuisine, de raisons pour lesquelles être végétarien c'est trop bien et trop chouette, on peut aussi se renseigner sur le site de l'Association Végétarienne de France, végétarisme.fr. Et ben du coup Aurélia, on vous retrouve le jeudi, à partir du jeudi 4 avril, sur la semaine du développement durable dans les cantines des adultes de Paris. Merci.
Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Eh bien, maintenant, en fait, ça nous a un petit peu ouvert l'appétit de discuter de toutes ces bonnes choses, de cette gastronomie végétarienne et végétalienne qu'on pourrait découvrir à l'occasion de Jeudi Veggie. Dis donc, Pascal, t'aurais pas une recette ?
Oui, justement, j'ai une petite recette pour ceux qui aiment le chocolat particulièrement. Il s'agit d'un brownie végétalien. Donc, pour 6 à 8 personnes, il vous faudra 200 g de chocolat noir pâtissier, 120 g de crème de coco, 100 g de sucre en poudre, 100 g de poudre d'amande, 50 g de noix de coco râpées, 3 cuillères à soupe de compote de pommes, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs type maïzena, 1 cuillère à café de bicarbonate alimentaire et une pincée de sel. Donc vous pourrez préchauffer votre four à 180 degrés, thermostat 6, ensuite faire fondre le chocolat au bain-marie, puis y mélanger la crème de coco. Ajoutez les autres ingrédients, poudre d'amande, sucre, compote de pommes, fécule, noix de coco râpée, bicarbonate et sel. Bien mélanger au fouet jusqu'à obtenir une pâte homogène. Selon les goûts, bien sûr, vous pouvez ajouter quelques noix de cajou concassées. Graissez le moule, de préférence carré, et y versez la préparation. Enfournez 25 minutes et voilà qui est fait, laissez refroidir avant de démouler. Facile à réaliser, ce brownie fondant et très chocolaté conviendra à tous les gourmands. Vous pouvez retrouver cette recette sur le site de liliskitchen.com. Lily est une cuisinière végétalienne qui s'inspire de recettes traditionnelles pour créer donc ses propres recettes végétaliennes en remplaçant les œufs, le lait, le beurre, la crème, le miel, la gélatine, etc. par des produits végétaux. Elle vient également de créer une nouvelle rubrique intitulée « Véganisons ». Voilà, et le blog de Lily fait partie de ceux qui proposent également un menu végétalien par semaine. Il s'agit du menu, donc là, ce n'est pas le menu du jeudi, mais le menu végé du vendredi. Et en fait, quand on commence à s'intéresser à l'alimentation végétalienne ou végétarienne, une question s'impose, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger ? Et donc, c'est à partir de cette réflexion que quelques amis de la blogosphère culinaire végétarienne-végétalienne ont décidé de mettre en place un menu végétarien hebdomadaire. Donc, tous les vendredis, vous pouvez également trouver sur chaque blog participant un menu complet avec une entrée, un plat et un dessert aux recettes simples et rapides avec les listes de courses. Voilà, et à ce jour, plusieurs blogs participent et vous pouvez donc retrouver ces informations en tapant simplement « Menu végé du vendredi ».
Qui existe sur Internet et sur Facebook également. On va passer à la partie agenda qui est bien chargée. Donc on ne va pas rappeler les événements liés à Jeudi Veggie. Hein, vous les avez notés ou si vous ne les avez pas notés, retrouvez-les vite sur jeudi-veggie.fr. Mais on va parler de la manifestation, par exemple, prévue le 13 avril à Guéret contre la construction d'un abattoir, un abattoir donc en pleine Creuse, un abattoir qui prévoit en fait d'exporter les animaux qui seront tués, et ce seront des animaux qui seront, enfin des bovins qui seront tués sans étourdissement. Donc il y a une forte mobilisation par rapport à cette manifestation. Il y a un car qui est mis en place au départ de Paris. Il y en a d'autres au départ de Lyon, Bordeaux, mais Radio Anguin, on est plutôt écouté sur Paris et région parisienne. Ensuite, on aura une manifestation en mai à Alès, les 12 et 13 mai, contre la corrida organisée par le CRAC Europe pour la protection de l'enfance. Donc 12 et 13 mai à Alès, dans le sud, cette ville pourrait basculer contre la corrida. Ensuite, dans l'actualité, le 18 mai, alors là, ce ne sera pas jeudi Veggie, ce sera la Veggie Pride. C'est une manifestation de végétariens, de végétaliens, de véganes pour les animaux. Cette année, la Veggie Pride aura lieu à Genève. Et autour de cet événement, donc autour du 18, du 17 au 19, de nombreuses conférences et animations seront proposées également. On peut mentionner aussi le 2 juin, la manifestation à Emani, contre la fourrure devant un élevage de visons où des visons sont entassés, hein, ça revient, c'est toujours de l'élevage intensif, des visons entassés dans des cages de façon assez sordide, un élevage qui d'ailleurs ne respecte même pas la réglementation, c'est dire. Et donc cette manifestation aura lieu à Emani le 2 juin. Et puis, dernière manifestation, non, avant-dernière, j'en aurai une autre après, le 15 juin, la marche pour la fermeture des abattoirs qui aura lieu à Paris et à Toulouse. Et puis, le 3 juillet, une manifestation contre Air France qui transporte des animaux à destination des laboratoires de vivisection. Là aussi, vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site internet l214.com, rubrique agenda. Avant de se quitter, on voulait encore vous parler de quelques livres à paraître, notamment un livre qui paraît la semaine prochaine, un livre qui s'appelle « La vérité sur la viande », qui est l'appel de 23 experts internationaux contre les menaces de l'élevage industriel. Alors, ça rejoint un petit peu cette initiative de Jeudi Veggie, puisqu'on va parler de toutes les conséquences de la production et de la consommation de produits d'origine animale, et par là même démontrer qu'aujourd'hui, on est vraiment en surproduction, surconsommation de produits d'origine animale. Et à cette occasion, il y aura une conférence de presse le mercredi 3 avril, mais surtout une soirée organisé à Paris. Là aussi, toutes les informations sur le site internet d'L214 dès 15h. Voilà. D'autres titres aussi, Pascal ?
Oui, il existe un petit livre qui vient de sortir, intitulé « Petits précis pour cuisiner sans produits d'origine animale ». C'est un ouvrage pour passer sans accroc à une alimentation 100% végétale. Et les aliments à remplacer sont classés par catégorie. Et il suffit donc de chercher l'ingrédient à remplacer. Donc c'est tout simple. Et vous avez un choix de 200 recettes. Voilà, c'est aux éditions Marabout.
Aussi, un autre titre qui est sorti aux éditions Droits des animaux.
Oui, c'est Repas vegan entre amis. C'est un livre de recettes dont l'auteur est Laura Vegan Power. Et donc, vous pouvez le trouver dans la boutique à Paris, Un Monde Vegan, 64 rue Notre-Dame de Nazareth, dans le 3e arrondissement. Ou bien, vous pouvez aussi le commander sur leur site internet www.unmondevegan.com.
Eh bien, merci beaucoup de nous avoir suivis pendant cette heure, Pascal.
Merci Brigitte.
Et de l'association de protection animale L214. Retrouvez très prochainement cet après-midi à 15h au Bonheur des animaux, présenté par Céline Massour. Elle nous parlera cette semaine de la canirando. Et puis tous les derniers jeudis du mois, de 11h à midi, vous pourrez retrouver aussi le Royaume des animaux avec des conseils et des histoires très intéressantes autour des animaux, animés là aussi par un vétérinaire qui pourra du coup vous en parler vraiment précisément. Et nous, on se retrouve le mardi 23 avril de 11h à midi, toujours sur Radio Enghien. Merci à toutes et à tous de nous
Merci
avoir suivis.
À toutes.
À très très bientôt. Merci.
Le vieux soleil s'en va. Bonsoir.
Good evening.
Bonsoir.
Buonasera.
La journée est finie.
Les ateliers fermés.
Oh. IDFM, Radio Enghien 98 FM. Ça change de la radio.
Get past, people, get past, hit me.
Bonjour, c'est Bob Garcia sur IDFM 98. Je vous donne rendez-vous tous les dimanches de 20h30 à 21h30 dans Jazz Actu, une heure consacrée à l'actualité de la planète jazz. Au programme, des interviews exclusives, des coups de cœur, les concerts à ne pas rater, mais surtout de la musique. Les meilleurs morceaux de jazz sélectionnés pour vous, dans tous les styles et pour tous les goûts. Jazz Actu, le tour de la planète jazz en 60 minutes, c'est tous les dimanches de 20h30 à 21h30 sur IDFM 98.